Bien, je rappelle les séminaires du mois de novembre et de décembre. Tout à l'heure, à 11 h, nous aurons un séminaire de Christopher Foote du Clarendon Laboratory à Oxford sur The Scissor Modes and Superfluidity of a Bulk Condensed Gas. La semaine prochaine, le 14, ce sera Michel Broyer du laboratoire de spectrométrie ionique et moléculaire de Lyon qui nous parlera de propriétés optiques et polarisabilité électrique des agrégats. Le 21 novembre, ce sera Gordon Bem, de passage à Paris, qui est de l'Université of Illinois à Urbana-Champaign, qui nous parlera de Spontaneous Symmetry Breaking and Fragmented Bulk Condensates. Le 28 novembre, ce sera Daniel Zachman du Weizmann Institute, Erfurt et actuellement à Heidelberg, qui nous parlera de Trapping of Fast Ions, Observations of Self-Bunching Effects. Et enfin, le 5 décembre, à 11 h, ce sera Chiara Forte du laboratoire LENS de Florence, qui nous parlera de Interference of Current Matter Waves. Bon, je reprends donc rapidement, je rappelle rapidement les résultats obtenus la semaine passée. Je vous rappelle que nous avons commencé par étudier le facteur de structure dynamique d'un condensat homogène. Et d'abord, si on prend un condensat homogène, c'est-à-dire uniforme, avec une densité uniforme, rho 0, à ce moment-là, le facteur de structure, le spectre de diffusion, comporte une seule fonction delta. Il est monochromatique, on a un spectre constitué d'une fonction delta proportionnelle au nombre d'atomes n. Et la fonction delta est centrée à la fréquence propre des excitations élémentaires du système. Je vous rappelle, ça c'est un résultat très important, que dans le modèle de Bobo-Dubov, les excitations élémentaires du condensat à très basse température satisfont la relation de dispersion suivante. Oméga cube Bobo-Dubov, racine h bar oméga cube Bobo-Dubov égale racine carrée de h bar oméga k0, h bar oméga k0 plus 2 mu, où oméga k ou q0 est l'énergie cinétique de recul, h bar q2 sur 2m. Ici, c'est une fréquence, on a divisé par h bar. Mu, c'est le potentiel chimique. G, la constante de couplage qui multiplie la densité, rho 0, qui est supposée uniforme. Et je vous rappelle, donc, le spectre des excitations élémentaires est linéaire pour les faibles valeurs de K, avec une pensée qui est interprétée comme la vitesse du son, une excitation de type phonon. Et au contraire, pour les grandes valeurs de K, on a une parabole déplacée, en fait, de l'origine, déplacée de la parabole habituelle, d'une quantité mu. Et donc, la relation de dispersion pour les grandes valeurs de K, c'est h bar k2 sur 2m, énergie de recul, plus mu, le potentiel chimique. Bon, alors, ceci étant, la semaine dernière, j'ai commencé à aborder le problème d'un condensat inhomogène. C'est-à-dire un condensat piégé. J'ai d'abord rappelé comment on peut le caractériser. Alors, j'ai rappelé ici l'expression du potentiel de piégeage, qui est un potentiel parabolique, qui n'a pas forcément les mêmes fréquences sur x, y, z. En général, on prend un potentiel de révolution, qui donne un condensat qui a la forme d'un cigare allongé. À l'approximation de Thomas Fermi, quand le nombre d'atomes est suffisamment grand, on peut négliger le terme cinétique, d'énergie cinétique dans l'équation de Gross-Pytalski, qui devient une équation algébrique, et on en déduit la densité de particules, la densité d'atomes, qui a la forme d'une parabole inversée, rho 0 fois 1 moins x sur x0 carré, moins y sur y0 carré, moins z sur z0 carré, où rho 0 est la densité au centre, et où x0, y0 et z0 sont définis par la condition que qu'on se déplace sur l'axe x, quand l'énergie de potentiel 1 demi de m oméga 0 x2 1 demi de m oméga 0 x carré x0 2 devient égal au potentiel chimique, à ce moment-là, la densité s'annule. Donc ça définit x0, y0, z0. Donc on a pour rho la forme d'une parabole inversée. Quand on voit cette forme, il est évidemment indiqué de changer de variable et de prendre des variables à dimensionner, x sur x0, y sur x0, z sur z0, x tilde, y tilde, z tilde. Et à ce moment-là, la densité spatiale s'écrit tout simplement rho 0, 1 moins r tilde au carré. Avec ce changement de variable, elle redevient isotrope. évidemment un calcul très simple, donne le nombre total de particules en fonction de ρ0, x0, y0, z0 avec un coefficient ici 8 pi sur 15. Alors, ce qui est important, c'est que l'apparition du potentiel de piégeage fait apparaître une nouvelle grandeur spatiale dans le problème, qui est la dimension du condensat R0. Et la deuxième partie du cours de la semaine passée, c'était quelques repères sur l'échelle de Q. Alors ça, évidemment, c'est très important. On voit apparaître des nouvelles longueurs caractéristiques qui n'existaient pas pour un condensat homogène. Il est important de les avoir bien en tête, parce que c'est ça qui va nous permettre de faire ensuite la discussion. Je les rappelle ici. J'ai bien sûr l'inverse du rayon du condensat, 1 sur R0. Et quand je prends des modes de vibration dont la longueur d'onde est de l'ordre de grandeur de R0, ce sont les modes de vibration, les premiers modes de vibration du condensat qu'on a étudié en détail dans un cours antérieur. Puis, on a un deuxième repère qui existe déjà pour le cas du condensat homogène, qui est l'inverse, 1 sur x0, de la longueur de relaxation, xi0, qu'on appelle encore la healing length en anglais, qui est définie par h bar 2 k02 sur 2 mu, 2m, l'énergie cinétique pour k0, est égale au potentiel chimique. C'est quand l'énergie cinétique et l'énergie d'interaction sont du même ordre de grandeur. Et le 1 sur k0, ça définit une longueur de relaxation, et ça, évidemment, ça ne dépend pas de la dimension du condensat. Et ce qui est important, c'est que pour les cubes plus petits que 1 sur x0, on est dans le régime linéaire, régime Fonon, pour la loi de dispersion. Pour les cubes supérieurs à 1 sur x0, c'est-à-dire quand on a alvar oméga q0 plus grand que mu, on est dans le régime particule libre. Et puis, j'ai introduit un troisième vecteur d'onde caractéristique que j'ai appelé QD, et qui est représenté ici, qui est celui-là, et qui est défini par l'idée suivante: pour QD, pour Q égale QD, la variation d'énergie due à l'effet Doppler est de l'ordre de grandeur de la variation d'énergie due aux interactions. Donc, pour Q égale QD, j'ai delta E Doppler, qui est H bar K D delta P sur M, est de l'ordre de grandeur de delta E interaction, qui est de l'ordre de mu. Alors, le calcul, je ne le refais pas. Ce qu'on trouve, je le montre simplement là. Il faut d'abord bien réaliser, ça, j'ai oublié de dire au début, c'est ça qui est important, comme le condensat a une dimension finie, il est confiné spatialement, il y a donc un delta x, delta y, delta z, et à ce confinement spatial correspond une dispersion d'impulsion. Alors que pour un condensat homogène, toutes les particules sont condensées dans un état d'impulsion nul bien défini. Donc pour un condensat homogène, delta p égale 0. Et donc delta x est infini, le condensat a une dimension absolument très grande. Par contre, pour un condensat inhomogène, le condensat est piégé, il a un rayon R0, donc il a une dispersion d'impulsion delta P égale H bar sur R0, et par suite une dispersion de vitesse delta V égale H bar sur R0, delta P divisé par M, H bar sur M, R0. Et dans la diffusion, il y a un effet Doppler, qui est H bar Q delta V, qui est donc H bar de Q sur M, R0. Et la valeur QD de Q pour laquelle cette énergie Doppler est de l'ordre de grandeur de l'énergie d'interaction, c'est donc H bar 2 QD sur MR0 égale mu, puisque delta I interaction c'est de l'ordre de mu. Mu c'est G0, c'est G c'est 4 pi H bar 2 sur M, la longueur de diffusion A, et quand j'égale ceci, les H bar 2 sur M s'en vont, et j'obtiens QD égale 4 pi A rho 0 R0, c'est-à-dire R0 qui multiplie 4 pi A rho 0, et 4 pi A rho 0 c'est 1 sur xi02. Donc QD, c'est de l'ordre de R0 sur xi02, qu'on peut en écrire 1 sur R0, qui multiplie R0 sur xi0. Et j'ai oublié de dire tout à l'heure que la dimension du condensat, de l'ordre de quelques dizaines de microns, est beaucoup plus grande que la longueur de relaxation xi0, qui est de l'ordre de quelques centaines de nanomètres. Donc, 1 sur xi0 est très grandement 1 sur r0, et qd qui est ici, c'est 1 sur x0 que multiplie r0 sur xi0, c'est donc beaucoup plus grand que 1 sur xi0, donc un troisième repère ici, r0 sur xi0 2, au-dessus, l'effet Doppler est plus important que les interactions, en dessous ici, l'effet Doppler est plus petit que les interactions. Donc on voit sur cette échelle de Q, j'ai d'abord les modes propres de vibration, les phonons, les particules libres avec un effet Doppler petit devant l'interaction, et puis les particules libres avec un effet Doppler grand devant les interactions. Et maintenant, je vais étudier successivement ces différents domaines. Et le premier domaine qu'on avait commencé à étudier la semaine dernière, c'était le domaine Q très très grand devant QD, qui est R0 sur XI0 2. Et nous allons voir qu'il y a un résultat très simple qu'on obtient dans ce cas-là. Et je vais présenter donc maintenant rapidement le calcul. D'abord, on peut réinterpréter la condition Q très grand devant R0 sur XI0 2. En effet, si on est dans ce domaine, si on est dans ce domaine-là, on est dans le domaine particule libre. Et donc, l'énergie de la particule, c'est h bar 2q2 sur 2m plus mu. On est dans le régime excitation particule libre. Et on est dans un régime où mu est petit devant h bar 2q2 sur 2m. Le potentiel chimique est petit devant l'énergie cinétique. Donc, l'atome qui est excité, donc le second terme est petit devant le premier. Et le terme essentiel, c'est celui-ci. Ça veut dire que quand l'atome est excité, sa vitesse est de l'ordre de la vitesse d'une particule libre, c'est-à-dire h bar q sur m. Et quand l'atome est excité, il était d'abord pratiquement immobile, il va bouger, il va quitter le condensat au bout d'un certain temps. Et quel est le temps au bout duquel il quitte le condensat? C'est la dimension du condensat, R0 divisé par la vitesse qu'il a, h bar q sur m, c'est donc m R0 sur h bar q. Il ne va ressentir l'interaction avec les autres particules que pendant ce temps-là. Quel est le déphasage qu'il subit pendant ce temps-là? Il faut prendre l'énergie d'interaction, mu, multipliée par le temps, et divisée par h bar. Ça donne le déphasage. Alors, c'est donc m, tau, c'est mr0 sur h bar de q, c'est donc mr0 sur h bar de q, mu. Je remplace mu par g0, et par son expression en fonction de la longueur de diffusion, et je trouve finalement que phi, le déphasage, c'est 4 pi a rho 0 r0 sur q, c'est-à-dire r0 sur q, et 4 pi a rho 0, c'est 1 sur psi 0, 2. Un facteur de près. Donc, je m'aperçois que Q très grand devant R0 sur XI0 2, c'est équivalent à Phi très petit devant 1. Donc, quand je suis dans ce régime, les grandes valeurs de Q, ici, la particule qui est excitée au cours de la diffusion est très rapide, elle est tellement rapide que le déphasage qu'elle subit à cause de l'interaction avec les autres particules est en valeur absolue très petit devant l'unité. Donc, on peut le négliger. Donc on peut considérer que la particule qui est excitée, quand elle quitte le condensat, elle est libre. Elle ne sent pas l'effet des autres particules. Elle les sent bien sûr, mais le déphasage que ça produit est petit devant l'unité. Alors il faut bien, et j'avais insisté, c'était le dernier transparent que j'avais présenté la dernière fois, il faut bien distinguer déphasage absolu et déphasage relatif. Dans tout le domaine particule libre, c'est-à-dire dans tout ce domaine-là, de là à l'infini, on a toujours h bar oméga q0 très très grand devant mu. Et à ce moment-là, le déphasage dû à ce terme, le déphasage dû au mouvement de la particule est très très grand devant le déphasage dû à mu. Donc le déphasage dû aux interactions est en valeur relative très petit devant le déphasage lié au mouvement libre de la particule. Ce qui est en plus ici, c'est que ce déphasage dû à mu est non seulement petit en valeur relative, il est aussi petit en valeur absolue. Mu tau sur h bar est petit devant 1. Alors que ici, mu tau sur h bar est grand devant 1, mais il est beaucoup plus petit que oméga q0 tau, qui est le déphasage dû à l'évolution libre. Alors, ayant bien compris ceci, nous pouvons maintenant revenir à l'expression du facteur de structure et essayer d'introduire une approximation tenant compte du fait que le dépassage absolu est petit. Alors, je reviens à un cours antérieur. Et dans le transparent T24, hein, ça doit être le cours 2, je crois, ou le cours 1, ça devait être le cours 2, pardon, S de Q de oméga, nous avons montré que c'était la transformée de Fourier de la valeur moyenne d'un produit de deux opérateurs de densité spatiale en représentation Q en transformée de Fourier, l'un à l'instant 0, l'un à l'instant 0, l'autre à l'instant T. Il manque ici tôt. Ou bien, il faut me mettre ici, recul de taux. Recul, quand il n'est pas de taux, ça veut dire que c'est recul à l'instant 0. Et je vous rappelle que recul, c'est sigma k de ak plus q croix ak, et recul croix, c'est sigma k prime de ak prime croix ak prime plus q. Et que recul de taux, c'est E puissance I H taux sur H bar, recul E puissance moins I H taux sur H bar. Ou H est la Hamiltonienne totale. Alors, dans cette fonction de corrélation, produit de l'opérateur densité spatiale pris à deux instants différents, quels sont les ordres de grandeur de taux? Les ordres de grandeur de taux, c'est le temps de corrélation des fluctuations de la densité, et dans le problème qui nous intéresse ici, c'est le temps que met la particule à quitter le condensat. C'est le temps que j'ai calculé plus haut. Si le déphasage lié aux interactions pendant le temps taux est petit, ça veut dire que dans l'Hamiltonien H, l'effet de l'interaction est négligeable. Donc, pour calculer recul de taux, je peux remplacer H par H0, qui est beaucoup plus simple. Donc, dans le régime Q très très grand, pour calculer l'opérateur recul de taux en représentation de Heisenberg, je peux complètement négliger l'Hamiltonien d'interaction et remplacer H par H0. Alors, une approximation de ce type, c'est ce qu'on appelle l'approximation d'impulsion, en anglais impulse approximation. Alors maintenant, l'évolution libre est beaucoup plus facile à calculer, bien sûr, et on va pouvoir calculer exactement le terme. Alors, à quoi est égal recul pris en sandwich entre E puissance IH0 taux sur H bar et E puissance moins IH0 taux sur H bar? Je rappelle que H0, c'est l'Hamiltonien libre, c'est donc sigma K de H bar oméga K0 AK croix AK avec oméga K0 égale H bar K2 sur 2M. Et nous savons très bien que l'opérateur AK, pris en sandwich entre puissance IH0 et puissance moins IH0, c'est tout simplement AK et puissance moins I oméga K0 taux. Pour le démontrer, il suffit d'utiliser la relation de commutation de AK avec une fonction de la croix, K. Donc, on en déduit que recul entre et puissance IH0 et puissance moins IH0, je remplace AK ou recul AK par AK et puissance moins I oméga K0 taux, et AK plus Q croix par et puissance plus I oméga K plus Q 0 taux. Donc l'évolution dans le temps, c'est simplement une exponentielle d'évolution libre, et on voit apparaître ici la différence d'énergie cinétique pour K plus Q pour K, qui est écrite ici, les termes en K2 s'en vont, et j'obtiens que oméga K plus Q 0 moins oméga K0, c'est H bar K2 sur 2N, plus H bar K sur M, qui multiplie Q. Et donc, SQ de oméga est la transformée de Fourier de cette double somme, sigma k, sigma k prime, de la valeur moyenne dans l'état fondamental psi 0 de ce produit de quatre opérateurs, l'un qui vient de rho, des deux rho ici, et le rho qui est en représentation de l'interaction à l'instant tôt fait apparaître cette exponentielle d'évolution libre. Donc, ce qu'il faut que je calcule maintenant, c'est cet élément de matrice. Cette valeur moyenne dans l'état fondamental d'un produit de quatre opérateurs. Vous allez voir que ce n'est pas difficile. En effet, ce produit de quatre opérateurs, les deux du milieu, AK prime plus Q, AK plus Q croix, je peux changer l'ordre de A et A croix en utilisant le commutateur. J'en ai fait AK prime plus Q, AK plus Q croix égale delta KK prime, plus l'autre ordre, AK plus Q croix, AK prime plus Q. Alors, il va y avoir une contribution qui vient du terme delta KK prime, que je vais étudier tout à l'heure, et une contribution qui vient de ce terme, c'est-à-dire maintenant, il faut calculer cette valeur moyenne de quatre opérateurs rangés dans l'ordre normal. Deux opérateurs de création et deux opérateurs de destruction. Alors, essayons de voir un peu l'ordre de grandeur de cet élément de matrice. Psi 0, l'état fondamental. AK détruit une particule dans l'état K. AK agissant sur psi 0 ne donne un résultat non nul que si dans l'état psi 0, il y a une population non nulle de particules avec une impulsion K. Or, mon condensat ayant une largeur R0, les seules valeurs de K qu'ils ont occupées sont de l'ordre de 1 sur R0 au maximum. Donc si K, pour que AK psi 0 ne soit pas nul, il faut que K soit pas grand devant 1 sur R0. De même, le bras psi 0 AK prime croix, qui est le bras conjugué du quête AK prime psi 0, n'est différent de 0 que si K prime n'est pas grand devant 1 sur R0. Donc K et K prime sont coincés. Ils peuvent pas être très grands. Mais maintenant, il y a AK prime plus Q. Et Q, je suis dans cette région-là. Je suis dans cette région-là de Q. Q est très grand devant 1 sur R0. Donc, si K' est petit, K' plus Q est très grand devant 1 sur R0, et à ce moment-là, AK' plus Q qui commute avec AK, puisque deux opérateurs de destruction commutent, AK' plus Q agissant sur Phi 0 va me donner 0, parce que je suis sûr que dans mon condensat, il n'y a pas d'état d'impulsion très très grand devant 1 sur R0 qui sont occupés. Donc, conclusion, cet élément de matrice est nul. D'accord? Parce que je suis dans un régime où Q est très grand. Donc, ce terme s'en va. Il est négligeable. Il ne reste que le terme en delta KK'. D'accord? Et si je garde le terme en delta KK', la double somme devient une simple somme sur K. Et finalement, j'obtiens le résultat suivant. C'est que S de Q de oméga est la transformée de Fourier temporelle de la valeur moyenne dans psi 0 de AK croix AK que multiplie cette exponentielle. Et la transformée de Fourier de ça, c'est trivial, puisque la transformée d'une fonction d'une exponentielle, c'est la fonction delta. Donc j'obtiens que SQ de oméga, c'est somme sur K d'une fonction delta oméga centrée au point H bar Q2 sur 2M plus H bar Q sur M scalaire Q avec un point qui est psi 0 AK croix AK psi 0. Et ça, c'est une interprétation physique évidente. Ça veut dire que je prends la population du condensat d'impulsion K, qui est proportionnelle à la valeur moyenne de AK croix AK dans l'état psi 0, et ça, ça va me donner une fonction delta centrée en une fréquence qui est la fréquence de recul, H bar Q2 sur 2M, corrigée de quoi? De H bar K sur M Q, H bar K sur M CV, corrigée de l'effet Doppler. Donc j'obtiens un résultat très simple, c'est que le spectre de diffusion, c'est un spectre Doppler. Chaque classe de vitesse me donne une raie monochromatique centrée en H bar Q2 sur 2M, énergie de recul, plus l'effet Doppler. Et ensuite, il faut que je somme sur K, c'est-à-dire qu'il faut que je moyenne sur toutes les vitesses du condensat. Donc, j'obtiens un résultat extrêmement important. C'est pour ça que j'ai pris la peine de vous le démontrer en détail, c'est pas en général fait dans la littérature. On voit qu'à très grande moment de transfert, à très grande valeur de Q, le spectre de diffusion, c'est tout simplement un spectre Doppler, donc c'est une vélocimétrie Doppler. Et sur quoi je voudrais insister, c'est que dans ce calcul, je n'ai fait aucune hypothèse sur psi 0. Psi 0 est la fonction d'onde exacte de l'état fondamental. Je n'ai pas pris une fonction d'onde approchée. Et nous voyons que ce résultat est... Donc ça me donne la répartition de vitesse, la répartition des valeurs de K dans le condensat, mais dans le condensat, dans l'état fondamental, perturbé, tenant compte des interactions. Donc c'est un résultat intéressant, ça veut dire que la diffusion à très grande énergie me donne la répartition des vitesses dans le condensat, me donne des informations sur la fonction d'onde de l'état fondamental du condensat, pas sur une fonction d'onde approchée, sur la fonction d'onde exacte. Donc ça c'est un résultat qui me paraissait intéressant d'expliciter bien en détail. Alors, ayant terminé ce domaine, on va passer maintenant aux autres domaines. Et je vais prendre maintenant alors, je vais carrément prendre le domaine Q, très petit R0 sur Psi 02, très très grand devant Q, très très grand devant 1 sur R0. C'est-à-dire que je vais étudier maintenant tout ce domaine qui va de là à là. Et je ferai ensuite une discussion en deux sous-divisions, ce domaine-là et ce domaine-là. Donc je suis dans un domaine, ici, où l'effet Doppler est négligeable devant l'effet des interactions. Dans tout ce domaine. Hein. Parce que quand je diminue Q delta V. Hein. L'effet Doppler devient de plus en plus petit. Donc je suis maintenant dans un domaine où l'effet Doppler est négligeable. Donc il est légitime de négliger le déplacement de Doppler dû au mouvement des atomes. Il est légitime de négliger la dispersion des vitesses des atomes liée à leur confinement spatial. Donc je vais considérer que les atomes sont au repos. Hein, parce que si je veux tenir compte de leur mouvement, ça introduira un effet Doppler qui est négligeable. Donc je vais considérer le condensat, qui est inhomogène, comme une série de condensats homogènes au repos, mais avec des densités qui varient d'un point à l'autre. Alors ça, l'idée qui est sous-jacente, c'est on fait une approximation de densité locale. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si je prends un volume D3R autour du point R, j'ai combien d'atomes dans ce volume? J'ai rho de R D3R. À ce moment-là, je reviens à la formule que j'ai réécrite ici, le facteur de structure dynamique d'un condensat homogène. C'est égal au nombre d'atomes que multiplie la fonction delta pour la valeur de oméga égale oméga cubé ou oméga cubé, la fréquence des excitations élémentaires avec la densité correspondante, et que multiplie oméga cubé rho sur oméga cubé. Donc la seule chose que je vais faire ici, je vais remplacer n par rho de r d3r, le nombre d'atomes qu'il y a dans le volume d3r, et je vais remplacer oméga cubé par oméga cubé au point r, et j'obtiens donc rho de r d3r, oméga q0 sur oméga qb au point r, que multiplie delta de oméga moins oméga qb au point r, et je somme sur r. Donc j'ai décomposé le condensat en petits morceaux, chacun homogène, et pour chacun je calcule le facteur de structure et j'intègre sur r. D'accord? Je fais donc une approximation de ce qu'on appelle une densité locale. Et on obtient alors cette expression pour le facteur de structure. LDA, c'est Local Density Approximation, approximation de densité locale, somme de D3R, rho de R, oméga Q0 sur oméga QB de R, delta de oméga moins oméga QB de R. Où oméga Q0 égale H bar Q2 sur 2M, et oméga QB de R, c'est racine carrée de oméga Q0 plus 2G rho au point R divisé par H bar. Bon, donc j'ai maintenant une intégrale qu'il faut que je calcule. Alors, comme j'ai indiqué tout à l'heure, il est commode de passer aux variables x chapeau, y chapeau, z chapeau, et qu'on fait ce changement de variable, un calcul sans difficulté. On a quelque chose qui est isotrope, maintenant rho devient isotrope, donc on peut faire l'intégration sur les angles polaires. Il ne reste plus que l'intégration sur le module de R, et on obtient S LDA de Q de oméga égale N 15 sur 2, somme de 0 à 1 de dr r2, 1 moins r2, que multiplie oméga q0 sur oméga qb, qui ne dépend plus que du module de r, delta oméga moins oméga qb module de r, ou oméga qb de r, tilde est donné par cette expression, et où j'ai remplacé mu par mu sur h bar, que j'appelle mu chapeau. C'est une fréquence, ou non plus une énergie. Voilà, donc j'ai cette intégrale, maintenant qu'on peut calculer explicitement. On change encore une fois de variable, on passe de la variable R à la variable oméga cubé, que je réécris oméga pour simplifier un peu les notations. J'ai donc oméga 2 égale oméga q0 plus 2 mu 1 moins r2, d'où oméga 2 oméga égale ceci, 1 moins r2 égale cette expression. Et quand je fais varier R tilde de 0 à 1, quand R tilde est égal à 0, j'ai oméga 2 égale oméga q0 facteur de oméga q0 plus 2 mu tilde, qui est la valeur maximale de oméga, qui est la fréquence de l'excitation élémentaire au centre du condensat où la densité est la plus grande. Et quand je prends R égale 1, ceci est égal à 0, et j'ai oméga minimum égale oméga Q0, c'est la fréquence des excitations élémentaires au bord du condensat où la densité de particules s'annule. Et qu'on fait donc ce changement de variable, on arrive à cette expression, à cette intégrale pour LDA de Q. L'intégrale à ce moment-là est triviale parce qu'on a une fonction delta. Et on obtient la formule que j'ai encadrée en rouge, que je relis ici, S LDA de Q et d'oméga, c'est 15N sur 4 mu, où mu tilde là, c'est le potentiel chimique en unité de fréquence, oméga 2 moins oméga minimum carré sur oméga maximum carré moins oméga minimum carré, donc ça c'est quelque chose de parabolique, et racine carrée de oméga maximum carré moins oméga 2 sur oméga maximum carré moins oméga minimum carré. D'accord? On a donc une formule analytique pour le facteur de structure dynamique, et je l'ai représenté ici. Peut-être d'abord, je vais laisser son expression là-bas, une minute. Un certain nombre de commentaires sur cette expression. Il est proportionnel au nombre d'atomes, hein, il y a n. Il est homogène à 1 sur mu chapeau, 1 sur mu tilde, il est homogène à l'inverse d'une fréquence, comme il se doit. Quelque chose qui est amusant et qui est un peu inattendu, il ne dépend pas de la direction de Q. Même si le condensat a la forme d'un cigare, très anisotrope, la diffusion ne dépend pas de la direction de Q. D'accord? Indépendamment des effets stimulés, des effets de superradiance que je discuterai dans un cours ultérieur où on verra à ce moment-là que la diffusion est très fortement dépendante de Q. Mais à l'ordre le plus bas, qui est la théorie de bande que j'étudie ici, il ne dépend pas de la direction de Q. Il est différent de zéro que pour oméga compris, plus grand qu'oméga minimum et plus petit qu'oméga maximum. Et ici, c'est l'expression de S LDA de Q et d'oméga, fonction d'oméga pour Q fixé. Ici, c'est exact, hein, c'est une courbe calculée. C'est une courbe donc qui part avec une tangente ici, une certaine tangente qui croît, et puis qui tend vers zéro ici, de nouveau, avec une tangente verticale. Donc c'est une courbe qui est dissymétrique, hein, elle est pas symétrique. On a donc un spectre qui est dissymétrique. Alors maintenant, je peux, ça c'est général, je remets cette figure ici, ce résultat est général, et je peux maintenant regarder la forme du spectre pour le régime particule libre, c'est-à-dire le régime alpha oméga Q0 grand devant mu, ou pour le régime phonon alpha oméga Q0 plus petit que mu. Alors voilà la forme du spectre. Si oméga Q0 est très grand devant mu, si on se rappelle que oméga maximum au carré moins oméga minimum au carré, c'est 2 mu oméga Q0, si je divise par oméga minimum carré qui est oméga Q0 au carré, j'obtiens ceci est égal à 2 mu sur oméga Q0. Donc cette distance divisée par celle-là, c'est quelque chose de très petit devant 1, donc on a un spectre très étroit. On a un spectre dont le barycentre est mesuré par rapport à l'origine ici, est petit devant la largeur. Par contre, si on est dans le régime phonon, on varie de oméga minimum à oméga maximum, et cette différence-là maintenant est très grande devant oméga minimum, et on a un spectre très large. Mais la forme de la courbe reste la même. Simplement, par rapport à l'origine, c'est soit une courbe étroite, soit une courbe large. Alors, on peut encore s'amuser à écrire SLDAQ d'oméga. C'est écrit en détail dans les notes, je ne le fais pas. Je donne simplement la suite des calculs. On fait encore ce changement de variable. Oméga 2 moins oméga minimum carré sur oméga maximum carré moins oméga minimum carré, on appelle ça U. Cette quantité est égale à 1 moins U. Et on trouve à ce moment-là une formule très simple. SLDAQ d'oméga, c'est 15N sur 4000 tilde U racine de M moins U. Quelques autres relations utiles ici. Et on voit apparaître qu'on fait ce changement de variable, une grandeur qui est très importante que je mets au tableau, parce qu'elle va me servir tout le temps, alpha égale 2 mu, donc le potentiel chimique divisé par oméga Q0. Donc quand alpha est petit, on est dans le régime particule libre, quand alpha est grand, on est dans le régime phonon. Et quand on fait ce changement de variable, on peut calculer à ce moment-là le facteur de structure statique, et donc après avoir fait donc approximation de densité locale, facteur de structure dynamique, S, LDA de Q et de oméga. Je passe maintenant au facteur de structure statique, S, LDA de Q. Et S, LDA de Q, par définition, c'est 1 sur N, l'intégrale sur oméga de S, LDA de Q de oméga, S, LDA de Q d'oméga est donné par cette expression, et qu'on fait le changement de variable, les changements de variable précédents, donc je vous fais grâce, on arrive à cette expression de SLDA de Q que je vais marquer au tableau, SLDA de Q égale 15K, somme de 0 à 1, de DU, U racine de 1 moins U, sur racine de 1 plus alpha U. Donc c'est une intégrale très compacte, et le seul endroit où il reste Q, c'est dans cette constante sans dimension alpha qui est d mu sur oméga Q0. Alors, il se trouve en fait que cette intégrale peut être calculée exactement, comme pour donner une expression analytique, mais elle tient quatre lignes. Elle est plus intéressante de plutôt maintenant étudier ce qui se passe dans le régime phonon, dans le régime particulier, mais dans le régime phonon. Donc, jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait est valable dans toute cette région, de là à là, et maintenant je vais distinguer cette région-là, et cette région-là. Cette région-là correspondant à mu petit devant oméga Q0, et cette région-là correspondant à mu grand devant oméga Q0. Donc, je vais commencer par le régime particulier. Je vais donc prendre d'abord maintenant un sous-cas, qui est oméga Q0 grand devant mu, c'est-à-dire alpha très petit devant 1. Et puis après, j'étudierai l'autre cas. Alors, quand oméga Q alpha est très petit devant 1, je peux remplacer dans cette expression ici, racine de 1 plus alpha U, je fais un développement limité en 1 alpha, c'est 1 plus alpha sur 2 U. Donc SLDA de Q, c'est 15K, somme de 0 à 1 de DU, U racine de 1 moins U sur 1 plus alpha sur 2 U. Comme alpha est petit, je peux développer cette fraction et écrire 1 sur 1 plus alpha sur 2 U égale 1 moins alpha sur 2 U. Et j'obtiens 15K, somme de 0 à 1 de DU, U racine de 1 moins U, moins alpha sur 2 U2, racine de 1 moins U. Les deux intégrales se calculent par partie, sans difficulté. Et j'obtiens finalement S LDA de Q égale 1 moins 4 septièmes de mu sur oméga Q0. Ça, c'est un résultat intéressant. Ça nous montre que mu étant très petit devant oméga Q0, le facteur de structure statique est pratiquement égal à 1 moins quelque chose qui va croître linéairement avec mu. Donc, quand j'augmente la densité de particules, quand j'augmente mu, SLDA de Q décroît de 1 linéairement en mu. Alors, ce résultat, maintenant, je vais l'utiliser pour calculer des grandeurs physiques. En effet, si je m'intéresse au spectre, au barycent du spectre, vous vous rappelez tout à l'heure, le spectre est comme ça. Je calcule maintenant la valeur moyenne de la fréquence du spectral. Qu'est-ce qu'il faut calculer? Là, la méthode des moments est particulièrement recommandée. La valeur moyenne d'oméga, c'est le moment d'ordre 1 divisé par le moment d'ordre 0 qui est la constante de normalisation. Je sais que le moment d'ordre 0 de SLDA de Q d'oméga, c'est ce qu'on appelle justement NL de Q. C'est la définition du facteur de structure statique. Et M1 de Q, ça satisfait une règle de somme extrêmement importante que j'ai établie, je crois, dans le cours 2, qui est la règle de somme qui généralise la règle de somme de Thomas Kuhn-Reich de la physique atomique sur les forces d'oscillateur à un système à un corps, c'est M1 de Q égale N alpha Q2 sur 2M, c'est N oméga Q0. Donc la valeur moyenne d'oméga, c'est M1, c'est-à-dire N oméga Q0, divisé par N S de Q, et S de Q, c'est 1 moins 4 septièmes de mu sur oméga Q0. Comme mu sur oméga Q0 est petit devant l'unité, je peux faire un développement de ceci, j'obtiens la valeur moyenne d'oméga égale oméga Q0 facteur de 1 plus 4 septièmes de mu sur oméga Q0 je trouve que c'est oméga Q0 plus 4 septièmes de mu tilde. Résultat très simple. Et qu'il est intéressant maintenant de comparer à ce qui se passe dans un condensat homogène. Dans un condensat homogène, j'ai le spectre de diffusion, c'est une fonction delta, centrée en oméga cubé, et comme je suis même ici dans le régime particulier, oméga cubé, c'est oméga Q0 plus mu. Je m'excuse, d'ailleurs, ici, il faudrait mettre un mu tilde, parce que c'est mu, l'énergie divisée par h bar, mu tilde. Donc, au lieu de trouver, je trouve le même résultat pour la valeur moyenne du spectre. C'est pas une fonction delta, c'est une courbe qui a une certaine largeur, mais dans la valeur moyenne, au lieu d'être mu, c'est 4 septièmes de mu. Ceci est facile à comprendre. Dans un condensat, la densité varie dans l'espace. C'est J0,0 prend sa valeur maximum au centre du piège, où ça doit se mettre à mu, mais comme elle est plus petite ailleurs, la valeur moyenne de ρ est plus petite que ρ0. Donc c'est normal, la moyenne spatiale de ρ est plus petite que la densité au centre. Donc c'est normal que le déplacement dû au potentiel chimique soit plus petit que le déplacement qu'on aurait avec un condensat dont la densité serait uniforme et égale à la densité au centre. Donc le facteur 4 septièmes vient tout simplement d'une moyenne spatiale de la densité dans le condensat donné par la forme de Thomas Fermi. Voilà donc un résultat analytique sur la fréquence centrale. On peut aussi calculer la largeur. Si je reviens à la figure de tout à l'heure, je suis dans ce cas-là. On vient de calculer la valeur moyenne de la fréquence, quelque chose par là, et on voit que la largeur, ben, c'est de l'ordre de oméga maximum moins oméga minimum. Donc, si on ne veut pas faire le calcul, on dit tout simplement c'est la valeur oméga maximum moins oméga minimum, qui est de l'ordre de mu. Et si on fait un calcul plus précis, on calcule le moment d'ordre 2, on divise par M0, et je vous fais grâce des calculs qui sont un peu pénibles, hein, on trouve que delta oméga, la largeur quadratique moyenne, c'est mu tilde, que multiplie le coefficient racine de 8 sur 147. D'accord? Donc, finalement, par rapport à un condensat homogène, quand je suis dans un régime particulier, au lieu d'avoir un spectre formé par une fonction delta, j'ai un spectre à une certaine largeur, qui, cette largeur, ne fait rien d'autre que de décrire l'inhomogénéité spatiale des interactions. Un atome qui est excité par la lumière, suivant le point où il est excité, voit une densité locale différente et par conséquent un déplacement différent, et c'est ça qui donne le barycentre et la largeur du spectre de diffusion. Voilà donc ce premier cas étudié. On peut maintenant étudier le cas oméga Q0 très très petit devant mu, c'est-à-dire alpha très très grand devant 1. Alors, l'expression est ici. Et je reviens à mon expression exacte ici, enfin, exacte à l'approximation de densité locale. Si alpha est très grand, je peux remplacer racine de 1 plus alpha u par racine de alpha u, et j'obtiens 15 sur 4 racine de alpha, somme de 0,1 de du u racine de 1 moins u, qui est égal à pi sur 8, et on trouve que SLDA de Q est une fonction linéaire de Q, comme pour le condensat homogène. Vous rappelez que pour le condensat homogène, aux faibles valeurs de Q, le facteur de structure statique était linéaire en Q. Ici, il est aussi linéaire en Q, et il vaut h bar Q sur 2mc bar, et non pas h bar Q sur 2mc, où c bar, c'est 32 sur 15 pi racine de mu sur m. Racine de mu sur m, vous reconnaissez la vitesse du son au centre du condensat, ou la densité maximale, donc c'est 32 sur 15 pi c, c'est plus petit que c, parce que 15 pi est plus grand que 32. Donc on trouve la même chose que pour un condensat homogène, pour le facteur de structure, à part que maintenant, il faut prendre h bar q sur 2m c bar, où c bar est la moyenne spatiale de c, qui est plus petite que c au centre du condensat, racine de mu sur m. Donc même idée que tout à l'heure. Et par suite, le même calcul que tout à l'heure, pour le barycentre, M1 sur M0, me dit que le barycentre du spectre, qui est très large, vous vous rappelez, c'est le spectre qui est chaque fois j'aurais dû sortir cette figure une fois pour toutes. Bon, je... Voilà, là voilà. Je suis dans ce cas maintenant, le barycentre du spectre ici, on trouve qu'il est égal à C bar Q, et non plus CQ, ou C bar plus petit que C. Toujours même histoire que la moyenne spatiale. Je ne calculerai pas la largeur, ici c'est pas intéressant, la largeur est tellement grande qu'elle est de l'ordre de l'extension du spectre. Donc, je peux maintenant récapituler les résultats que j'ai obtenus. Donc, par rapport à un condensat homogène, le spectre de diffusion a une largeur non nulle. Pour les très très grandes valeurs de Q, le centre du spectre est oméga Q0, il n'y a pas de déplacement Doppler global, l'effet Doppler moyenné sur V est nul, d'accord ? Mais par contre, la largeur Doppler n'est pas nulle. Donc, les très grandes valeurs de Q, le spectre est essentiellement déterminé par la distribution des vitesses, c'est-à-dire par l'extension spatiale du condensat. Le rayon fini R0 du condensat entraîne une dispersion des vitesses, donc un élargissement Doppler, et que la vitesse moyenne, par contre, est nulle, et le centre du spectre est toujours centré en oméga Q0. Pour des valeurs de Q intermédiaires, la forme du spectre est essentiellement déterminée par les interactions. Chaque zone du condensat donc, est le siège d'excitation élémentaire dont la fréquence dépend du point considéré, de la densité au point considéré. Et l'inhomogénéité spatiale entraîne une dispersion des fréquences propres et par suite entraîne un déplacement moyen et un élargissement qui est obtenu en prenant la moyenne des déplacements correspondants. Alors, je peux maintenant remplacer la figure que j'ai là par une autre. Donnant les approximations utilisées. Tout à fait en haut, ici, c'est l'approximation d'impulsion. Ici, c'est l'approximation de densité locale qui marche aussi bien pour les particules libres que pour les phonons. Ici, par contre, je n'ai que des particules libres, mais je peux négliger le déphasage des interactions quand la particule sort du condensat. Donc, on a tout étudié, il y a quelque chose qui reste. Qu'est-ce qui se passe au voisinage de ce point? Au voisinage de ce point, bon, on l'a étudié dans le cours 98-99, c'est les modes propres de vibration du condensat, ils ont été étudiés extrêmement en détail, mais au voisinage de ce point, qu'est-ce qui se passe quand je peux utiliser ni l'approximation d'impulsion, ni l'approximation de densité locale, et c'est le dernier point que je voudrais étudier maintenant. Donc maintenant j'ai dit le domaine Q de l'ordre de QD égale R0 sur Q2. Donc la largeur Doppler et la largeur due aux interactions sont du même ordre de grandeur et je ne peux pas négliger le mouvement des atomes. Et je ne peux pas négliger le déphasage lorsque les particules sortent. Alors là, il y a eu deux méthodes qui ont été développées pour étudier ce système. L'une, je crois, par un chercheur du groupe de Ketterle, Stamper Kahn, qui est une méthode de moment, qui étudie les moments d'ordre 1 et 2 du spectre de diffusion à partir de l'Hamiltonien approché décrivant les excitations élémentaires. Et l'autre, alors plus ambitieuse, qui a été faite par le groupe de Stringari et de Pitaevski, qui consiste à partir de la théorie de Bogoliubov généralisée en condensat inhomogène. Je vous ai rappelé dans le cours que la théorie de Bogoliubov pour un condensat homogène. Il existe aussi une théorie de Bogoliubov, les gens disent aussi Bogoliubov de gène, généralisée en condensat inhomogène. Elle est beaucoup plus, très voisine de la précédente, mais elle est un peu plus lourde à mettre en œuvre. Et à partir de cette théorie, on peut obtenir une expression formelle pour le spectre de diffusion. Et à ce moment-là, dans cette expression, on fait une approximation qui est connue en optique, qu'on appelle l'approximation Eikonal, qui, dans les équations du mouvement, des composantes U et V de la fonction d'onde, revient à remplacer le Laplacien, à prendre d'abord une partie rapidement variable de la fonction d'onde et une partie lentement variable, et à négliger dans la partie lentement variable les dérivés d'ordre 2. Ça revient à faire ce qu'on appelle une approximation Eikonal, qui consiste à négliger la diffraction. À ce moment-là, on obtient une expression qu'on appelle l'expression de l'approximation Eikonal, et qui permet de décrire beaucoup plus précisément l'ensemble de cette région-là, de là à là, qui pour les grandes valeurs de Q se réduit à l'approximation de l'impulsion, qui pour ici se réduit à l'approximation de densité locale, et qui ici donne une formule exacte qui permet de faire le raccord entre les deux. J'ai hésité avant de faire ça parce que pour introduire la théorie de Bourgoux-Dubois dans l'enseigne homogène, il aurait fallu consacrer au moins une ou deux séances, et c'était un peu lourd, d'autre part la formule à laquelle on arrive n'est pas une formule analytique, ça doit toujours finir par un calcul numérique. Il m'a semblé plus intéressant ici, et plus économique, de faire la première méthode qui est la méthode des moments. Donc c'est la méthode des moments que je vais vous présenter. Néanmoins, cette méthode-là est extrêmement intéressante, parce qu'elle apporte une nouvelle vision également sur le problème de diffusion. Alors, j'expose maintenant la méthode des moments, au moins son idée générale. Regardons d'abord, calculer le poids des rayons, on a besoin des fonctions d'onde, aussi bien de l'état fondamental que des états excités. Et on va essayer de simplifier au maximum le calcul de ces fonctions d'onde par l'utilisation de règles de somme. D'abord, l'état fondamental. L'état fondamental, c'est les fonctions propres, la fonction propre psi rho de la Hamiltonienne de Gross-Pitaïevski, P2 sur 2m, plus V de R, plus G rho de R. Où rho de R égale n psi rho de R au carré. Donc on peut prendre une équation de Schrödinger, où on a calculé d'abord la fonction d'onde de l'état fondamental, et on met dans l'équation de Schrödinger un potentiel qui est G rho de R. Maintenant, les excitations élémentaires. La condition Q égale QD implique que Q est très grand devant F sur XI0, puisque QD, qui est ici, est très grand devant F sur XI0. Donc je suis dans le régime particule libre. Si ρ de R était uniforme et égal à ρ0, les énergies des excitations élémentaires seraient égales aux valeurs propres de H0, augmentées de G0,0. Puisque je sais que dans le régime particule libre, les excitations élémentaires, c'est H bar Q2 sur 2M, plus mu. D'où l'approximation consistant à dire que dans l'esprit de l'approximation de densité locale, nous allons ajouter à H0 la perturbation G0 de R, dépendant maintenant de R, pour décrire l'effet des interactions. Mais, pour garder l'effet Doppler, je n'oblige pas le terme en P2 sur 2M, je garde le mouvement des atomes P2 sur 2M. Donc je vais décrire les excitations élémentaires par la Hamiltonienne suivante, H excité, P2 sur 2M plus V de R, et au lieu de garder G rho de R, qui était le cas pour l'état fondamental, j'ajoute une deuxième fois G rho de R, pour décrire le fait que, quand je crée une excitation élémentaire de type particulier, j'ajoute G rho de R, j'ai donc 2 G rho de R. Avec toujours rho de R, N psi rho de R carré, psi rho de R étant la solution de l'état fondamental de l'équation de Gross-Pitaïevski. Donc, l'approximation qu'on prend, c'est que pour calculer les excitations élémentaires, on va les considérer comme fonctions propres de cet Hamiltonien approché. Où je garde maintenant P2 sur 2M, bien sûr. Alors, prenons une transition qui relie l'état fondamental psi 0 à une certaine fonction propre psi f de l'état excité, certaines fonctions propres de la Hamiltonienne H excité. Si, quel est le poids de cette transition dans le spectre? Le poids, c'est l'élément de matrice de recul entre psi 0 et psi f en module au carré. Si je prends l'expression de recul en première quantification, qui est sigma de i de 1 à n de i puissance i q scalaire ri, opérateur, et si je calcule donc l'élément de matrice de cet opérateur en première quantification entre psi 0, toutes les particules dans l'état psi 0 et l'état excité où il y a une particule dans l'état psi f, toutes les autres dans l'état psi 0, j'obtiens que ce poids est proportionnel à l'élément de matrice de i puissance i q scalaire r opérateur entre psi 0 et psi f. Ça c'est le poids. Et si je veux maintenant calculer le moment d'ordre k de cette transition, il faut que je prenne le poids de la transition, le moment d'ordre k de f, que je multiplie par ef à la puissance k, et que je somme sur f. Ça, c'est le moment d'ordre k de l'énergie F de l'état excité. D'accord ? C'est la somme sur tous les états finaux possibles de E la puissance F qui multiplie le poids de la transition correspondant. Alors, maintenant, j'écris ça sous la forme psi F et puissance QR, psi 0, le complexe conjugué, et EK et F à la puissance K, je peux aussi l'absorber ici en écrivant H excité agissant sur psi F égale F psi F, et en mettant ici H excité à la puissance K agissant sur psi F. À ce moment-là, je peux utiliser la relation de fermeture sur psi F, et je trouve finalement que le moment d'ordre K de F, c'est toujours la suite des règles de somme, c'est la valeur moyenne dans l'état fondamental d'un opérateur. D'un opérateur qui est l'hamiltonien qui décrit les excitations à la puissance K, pris en sandwich entre puissance moins et puissance moins et puissance plus IQR. Ça, c'est l'idée de la méthode des moments. On remplace une sommation par la valeur sur tous les états finaux possibles de quelque chose qui dépend d'une énergie à une puissance 1, 2, 3 K, par la valeur moyenne d'un opérateur dans l'état psi 0. À ce moment-là, le calcul devient facile. Pourquoi ? Parce que pour calculer ce terme, H excité compris mis en sandwich entre puissance moins IQR et puissance IQR, le seul terme de H excité qui ne commute pas avec R, c'est le terme d'énergie cinétique. Rappelez-vous que l'hamiltonien H excité, je vais l'écrire ici, c'est P2 sur 2M, plus le potentiel de pH, c'est V extérieur, plus 2G, rho de R. Donc le seul terme qui ne commute pas avec R, c'est ce terme-là, puisque les deux autres dépendent que de R. Et je sais calculer le commutateur très facilement, puisque le commutateur P mis en sandwich entre puissance moins IQR et puissance IQR, en faisant commuter P avec les puissances IQR, j'obtiens P plus les puissances moins IQR, le commutateur de P avec les puissances IQR, et je retiens P plus H moins Q. Donc, et puissance IQR est un opérateur de translation de l'impulsion, et ceci, c'est la transformée de P dans une translation, et c'est tout simplement égal à P plus H moins Q. De sorte que P2 sur 2M mis en sandwich entre puissance IQR et puissance moins IQR et puissance plus IQR, c'est tout simplement 1 sur 2M P plus H moins Q au carré. C'est P2 sur 2M plus H moins 2 plus 2 sur 2M plus H moins Q P sur M. Et par suite, H excité mis en sandwich entre puissance moins IQR et puissance IQR, les termes dépendants de R ne sont pas changés, et j'obtiens tout simplement H0 plus G0 de R. H0, c'est la même chose que ceci, avec 1 au lieu de 2 ici. Hein. Donc j'ai H excité, c'est H0 plus G0 de R. Donc H0 plus G0 de R plus H bar 2 plus 2 sur 2M plus H bar Q P sur M. Donc vous voyez, on a une expression analytique pour H excité, et à ce moment-là, je peux calculer sans problème le moment d'ordre 1 de l'énergie, plus exactement le moment d'ordre 1 de la fréquence de la transition EF moins E0, M1 de EF moins E0, c'est M1 de EF moins M1 de E0, M1 de EF, c'est la valeur moyenne de H excité à la puissance 1 entre sandwich entre puissance IQR et puissance moins IQR, en temps psi 0, c'est donc E0 plus H bar 2 plus 2 sur 2M plus G0 de R moyen plus H bar Q P sur M valeur moyenne. Les symboles braquettes comme ça, ça signifie valeur moyenne dans l'état psi 0, et dans l'état fondamental, la valeur moyenne de l'impulsion est nulle, hein, puisqu'il y a le condensat a une certaine symétrie d'invariance par réflexion autour de l'origine. Donc ce terme s'annule, et j'ai donc tout simplement M1 de F, c'est E0 plus H bar 2 plus 2 sur 2M plus valeur moyenne de G0. M1 de E0 se calcule de la même manière. Alors ici, il manque un module au carré. Et c'était tout simplement égal à E0. Et quand je fais la soustraction M1 de F moins M1 de E0, j'obtiens un résultat très simple, que la valeur moyenne de l'énergie de la transition, c'est-à-dire le barycentre du spectre, M1 de F moins E0, c'est H bar 2 plus 2 sur 2M, l'énergie de recul, plus la moyenne du déplacement lié aux interactions, la valeur moyenne de G0 de R. Il y a pas de la moyenne due à l'effet Doppler est nulle, comme nous savons bien. Il n'y a pas de moyenne due à l'effet Doppler. Donc, on retrouve le même résultat tout à l'heure. C'est que le barycentre du spectre, qu'on tient compte des deux effets, c'est toujours l'énergie de recul plus l'énergie moyenne due aux interactions. Bon, ça, c'est pas surprenant. Le calcul de M2 est un peu plus lourd, mais je l'ai fait en détail dans les notes pour vous convaincre, parce que Et puis en général, on a du mal à le trouver hein, dans la littérature. M2 de EF-0, c'est cette valeur moyenne-là. C'est somme sur F de EF-0 carré, psi F et puissance IQA psi 0 en modulo carré. C'est donc M2 de EF, moins plus E02, moins 2 E0, M1 de EF. M2 de EF, il faut prendre ceci, la valeur moyenne de H excité au carré pris en sandwich entre les deux, qui revient à prendre la valeur moyenne de H excité pris en sandwich entre les deux, le tout au carré. J'ai calculé tout à l'heure cette quantité, donc il suffit de l'élever au carré. Par ailleurs, comme psi 0 a une parité bien définie, tous les termes impairs en plus 0, le terme d'ordre 1 dans plus 0, tous les termes impairs de P, toutes les puissances impaires de P sont nulles, puisque la valeur moyenne de P est nulle, donc il y a beaucoup de termes qui s'annulent. Et on obtient M2 de F, qui est donné par cette expression. On va apparaître ici E0 plus alpha 2 plus G au carré, plus G2 la valeur moyenne de rho au carré sur le condensat, plus le déplacement Doppler au carré vers la moyenne, plus 2 E0 plus alpha 2 plus 2 sur 2M la valeur moyenne de G0. Alors, il faut calculer les deux autres termes, donc j'ai 2 E0 M1 de F. J'ai calculé tout à l'heure M1 de F, donc je calcule cette quantité-là. Et par conséquent, le moment d'ordre 2 de F moins 0, qui est M2 de F plus E02 moins 2 E0 M1 de F, j'ai une expression explicite pour M2 de EF moins 0. J'ai pas encore fini parce que c'est pas le moment d'ordre 2 qui compte, c'est la variance. Pour avoir la largeur, il faut que je calcule la variance. Et la variance, la variance de EF moins E0, ces quantités-là, c'est le moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 au carré. C'est le carré des cas quadratiques moyens. Et quand j'utilise le résultat précédent sur M2 et sur M1, que j'ai fait au carré, je fais grâce des calculs, hein, et on trouve un résultat extrêmement simple. On trouve que la variance de EF moins E0, il y a deux termes. Un terme qui est G2 fois la variance de rho, la valeur moyenne de rho 2 moins la valeur moyenne de rho au carré, plus un terme qui est la valeur moyenne du déplacement de Doppler au carré. Et ce résultat est extrêmement simple. Je trouve donc que les variances s'ajoutent. La variance due aux interactions, qui est la valeur moyenne du carré de l'interaction moins la valeur moyenne de l'interaction au carré, plus la variance due à l'effet Doppler, c'est-à-dire la largeur de Doppler au carré, s'ajoute. Et j'obtiens donc un résultat très très simple. C'est que dans la région Q, de l'ordre de QD, où l'effet Doppler et l'effet des interactions sont comparables, il est légitime, et ça c'est la méthode de moment, donc on donne une démonstration approchée, il est légitime d'ajouter les déplacements moyens liés à chacun des deux effets, comme le déplacement lié à l'effet Doppler moyen est nul, il suffit de prendre le déplacement moyen lié aux interactions, et il est légitime d'ajouter au carré les carrés des largeurs. Autrement dit, les largeurs s'ajoutent quadratiquement. D'accord? On prend la largeur au carré de l'effet Doppler, la largeur au carré des interactions, on les ajoute les deux et on prend la racine carrée pour avoir la largeur du spectre total. Et qu'on fait ça, et qu'on compare avec le résultat de l'approximation iconale, on trouve une très bonne approximation. En fait, d'ailleurs, les expériences que j'ai décrites l'an dernier et sur lesquelles je reviendrai la semaine prochaine, les expériences du groupe de Quetterlé étudiant le spectre de diffusion Rayleigh à basse intensité d'un condensat, ont été interprétés, ont été dépouillés en fitant les courbes expérimentales, en les fitant par les gaussiennes et en vérifiant qu'on avait quelque chose de très correct en ajoutant quadratiquement la largeur de Doppler et la largeur liée aux interactions. Donc, j'en ai fini avec le cas du condensat inhomogène. Nous avons vu que l'ensemble des résultats que nous avons obtenus aujourd'hui, les plus importants, les faits saillants, c'est qu'à haute énergie, on a une vélosymétrie Doppler et qu'à plus basse énergie, il suffit d'ajouter quadratiquement l'effet des interactions d'une part, qui est inhomogène parce que la densité varie dans l'espace, et l'effet Doppler d'autre part. Et qu'on peut ainsi interpréter le spectre de diffusion. Alors, la semaine prochaine, j'aborderai l'ensemble des expériences qui ont été faites d'une part sur la diffusion Rayleigh d'un condensat, la diffusion de Bragg, et d'autre part la mise en évidence de la superfluidité obtenue en prenant une particule qu'on lance dans un condensat et en voyant le nombre de processus de collision auxquels elle donne naissance, qu'on varie sa vitesse. Donc la semaine prochaine, ce sera donc une séance expérimentale où je passerai en revue l'ensemble des expériences qui ont été faites dans ce domaine, avant de passer dans 15 jours à l'étude des effets non linéaires, où à ce moment-là, les premiers photons qui sont diffusés par le condensat laissent une trace dans le condensat qui vit suffisamment longtemps pour influencer les diffusions suivantes. On voit apparaître à ce moment-là des effets d'ordre supérieur, des effets de superradiant qui sont tout à fait spectaculaires. Donc ça sera les trois derniers cours que je ferai, ça sera ensuite pour étudier le régime non linéaire de la diffusion où on peut plus se contenter d'une approximation de Born. Voilà, on arrête là. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. On a encore quelques minutes.